laisser la parole. Je ne sais pas si c'est Bruno du coup ou Rémi qui va parler ou si c'est tous les deux pour la dernière présentation où on va parler d'ouvrages de protection contre les inondations.
Merci.
Merci beaucoup à toi. Et puis de toute façon, il y aura peut-être des nouvelles questions tout à l'heure.
Donc, merci Franck. En fait, on s'est mis d'accord avec Bruno, c'est moi qui allais faire la présentation qu'on a préparée ensemble. Mais je vais peut-être laisser, puisqu'on est censé se présenter, Bruno se présenter en premier avant de prendre la parole.
Oui, bonjour à tous. Donc, Bruno Belac d'INRAE à Aix-en-Provence, dans une équipe donc, qui travaille principalement sur la sécurité des ouvrages hydrauliques, barrages et digues. Et voilà, donc là, on nous a proposé de faire une présentation sur le lien que pourraient avoir les solutions fondées sur la nature avec les ouvrages de protection contre les inondations. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. Pour nous, hein, Rémi va revenir dessus. Voilà, donc on va surtout poser des questions plus que d'apporter des exemples très concrets, mais ça va être une discussion a priori intéressante. Donc je laisse la parole à Rémi.
Merci, merci Bruno. Oui, donc simplement, hein, Bruno vient de dire c'est quelque chose de nouveau. C'est nouveau et pas nouveau, comme on le verra. Ce qui est nouveau, c'est qu'on essaye de formaliser ça, puisque maintenant on parle de solutions fondées sur la nature, et on verra au cours de notre présentation ce qu'il y a de nouveau ou de pas nouveau. Effectivement, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous en termes de formalisation. Et c'est un peu l'intérêt de l'exercice, et je crois que c'est peut-être pour ça aussi qu'on l'a mis en fin d'après-midi avant le débat général, parce que ça permettra peut-être d'ouvrir la discussion sur l'adaptation des solutions fondées sur la nature à tel ou tel type d'ouvrage. Alors, bon, en introduction, j'ai assisté à l'ensemble de l'après-midi, dont la présentation de Freddy en début, et qui a dit beaucoup de choses, qui a beaucoup accéléré sa présentation sur les risques liés à l'eau et entre autres aux inondations. Donc, il y aura pas mal d'éléments qui seront pas nouveaux. Par contre, probablement que ça sera un point de vue un petit peu différent, puisqu'on n'est pas spécialiste des mêmes choses. Donc, je vais démarrer la présentation. Excusez-moi. OK. Donc, moi, je travaille avec Bruno, hein, pendant que je suis en train d'essayer de lancer la présentation. Donc, je travaille avec Bruno dans l'équipe qui s'occupe d'ouvrages hydrauliques à Aix-en-Provence. Mais en plus d'ouvrages hydrauliques, on s'intéresse aussi également de plus en plus à la protection contre les inondations, hein, pas simplement à la sécurité des ouvrages, mais aussi à la performance des ouvrages et des systèmes de protection contre les inondations et justement à une analyse système qui dépasse l'aspect purement génie civil plus classique. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse à cette question des solutions fondées sur la nature. Voilà. Donc je démarre la présentation sans plus attendre pour ne pas qu'on déborde trop. Donc, le plan de la présentation, on va voir d'abord en introduction des définitions des concepts. Ensuite, on va faire le lien entre solutions fondées sur la nature et protection contre les inondations. Alors, je pense que je vais dire aussi plus souvent SFN que solutions fondées sur la nature pour gagner du temps. Et puis, on parle tous de ça cet après-midi, donc ce n'est pas la peine de décliner à chaque fois. Les différentes fonctions hydrauliques de la protection contre les inondations, hein, le stockage temporaire à l'échelle du bassin versant, la protection locale pour empêcher l'eau de s'étaler, l'analyse en termes d'ouvrage et de sous-système. Un zoom sur quelque chose qui déborde, un autre concept un petit peu à la mode, comme les SFM, c'est les ouvrages multifonctionnels, la complémentarité entre les deux approches en ce qui concerne la protection contre les inondations. Je vais essayer de parler de protection contre les inondations, et pas forcément d'ouvrage systématiquement. Et ensuite, ouverture sur les discussions, hein, une première approche d'analyse en avantages et inconvénients. Les limites au développement, à l'application du concept SFN à la protection contre les inondations, une première approche, Et une dernière diapositive sur une première série de conclusions, le mot est peut-être un petit peu ambitieux, plutôt des perspectives. Alors, tout d'abord, quelques définitions. La protection contre les inondations, qu'est-ce que c'est ? La protection contre les inondations, c'est une opération ou un dispositif qui cherche à intervenir sur les milieux ou en constituant des ouvrages pour réduire l'aléa d'inondation. Alors, le réduire comment ? Soit en termes de probabilité, c'est-à-dire pour avoir des inondations moins souvent, pour avoir une intensité, une durée ou un temps d'arrivée de cette inondation plus favorable. La protection contre les inondations, c'est une des mesures parmi des tas d'autres de la gestion du risque inondation, de la prévention des inondations. En termes d'hydraulique, on a deux types de fonctions principales qu'on a illustrées sur les deux schémas qui sont à l'écran. C'est premièrement le stockage qui va permettre de diminuer donc au droit des enjeux les niveaux d'eau, les débits, etc., par stockage d'une partie de l'eau. Et puis, l'autre type de mesure, c'est deux types d'ouvrages ou de mesures. On a représenté des ouvrages. Le premier cas, c'est le barrage. Le deuxième, c'est celui de la digue. C'est empêcher l'eau d'atteindre les enjeux. Et puis, donc je ne vais pas reprendre la définition UICN de solutions fondées sur la nature, puisque Freddy l'a présenté en introduction. C'est effectivement une définition qui est un petit peu complexe je passe à la diapo suivante. On va regarder ce qui, dans cette définition, nous intéresse par rapport à la protection contre les inondations. Et la protection étant classiquement plutôt apportée par des ouvrages, on a, de par la définition, ne serait-ce des deux mots ouvrage et nature, une opposition. Ouvrage, c'est quelque chose d'artificiel. Nature, c'est quelque chose de naturel. Et les ouvrages classiques, les ouvrages de génie civil, tels qu'on les concevait, soit pour la protection contre les inondations, mais pour l'hydraulique en général, étaient des choses assez violentes par rapport à la nature, en essayant de la contraindre et en essayant de forcer la nature. Bon, depuis, on a quand même évolué, indépendamment du concept de SFN, on a intégré plus la notion de risque, la notion de limite des ouvrages, et c'est une approche qui est de plus en plus intégrée à tout notre métier des ouvrages de protection et des ouvrages hydrauliques en général. Et deuxième dualité, c'est que la nature, alors là, j'ai mis guillemets à nature, c'est principalement les arbres et les animaux qui peuvent créer des problèmes aux ouvrages classiques, puisqu'ils sont faits pour être quelque chose d'artificiel, en vue de la protection, des barrages, des digues, qui sont parfois des choses plus ou moins violentes en termes de nature. La plupart des ouvrages hydrauliques, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des ouvrages en terre et pas des ouvrages en béton, donc ils sont quand même relativement doux par rapport à la nature, mais ça reste des ouvrages dans lesquels on a défini des propriétés et pour lesquels l'intrusion de racines ou d'animaux qui viennent de faire des trous sont néfastes par rapport à leur performance, par rapport à leur stabilité en période de crue. Autre concept important qu'on veut préciser en début, c'est que le fonctionnement naturel, il est quand même quelque chose de relatif. Si on veut solution fondée sur la nature, revenir à un état naturel, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut pas dire grand-chose. L'état naturel, ça fait longtemps, entre autres dans nos pays occidentaux, où qu'on se trouve sur le territoire et entre autres sur les cours d'eau de petite à moyenne importance, on n'est plus du tout dans un fonctionnement naturel. On parle souvent de la Loire comme le dernier fleuve qui a un fonctionnement naturel. C'est le plus naturel, mais il y a quand même deux barrages sur le bassin versant et tout un système de digues. Donc, la question de relatif, relatif, c'est important. Et donc, on va essayer de se positionner dans la protection contre les inondations pour faire quelque chose le mieux possible par rapport à la nature, sans forcément à essayer de rejoindre un objectif de nature sauvage. Donc, et ensuite, autre chose également par rapport à l'aspect naturel lié aux ouvrages hydrauliques, ça rejoint une partie des concepts que Freddy a abordé, mais là aussi, moi, on les voit, nous, de manière différente. C'est par rapport à l'aspect morphodynamique. La morphodynamique d'un cours d'eau ou d'un littoral, hein, c'est l'interaction entre, entre l'eau et le milieu solide. Si on met des ouvrages, on modifie cette interaction. Et c'est quand même un phénomène naturel, même s'il n'est pas biologique. Et souvent, les ouvrages, on les a conçus pour s'opposer à ces phénomènes-là. Et c'est quand même aussi quelque chose que, de notre côté à nous, on a de plus en plus intégré, comme le fait de devoir tenir compte de ces contraintes de fonctionnement naturel, de plutôt travailler en termes d'équilibre par rapport à cette morphodynamique, et pas simplement l'érosion, il y a aussi le dépôt. Les deux sont à considérer, les deux ont des côtés positifs ou négatifs. Et donc, c'est un des aspects naturels à gérer également avec les ouvrages, c'est pas simplement les aspects biologiques. Et d'ailleurs, ces aspects aussi morphodynamiques impactent aussi directement et en interaction avec les aspects biologiques. Donc, on a des ouvrages, on a de la morphodynamique et on a de la vie, et tout ça interagit dans un système relativement complexe. Donc, l'objectif, c'est de conjuguer la protection contre les inondations, la richesse des écosystèmes, en se rapprochant le plus possible d'un fonctionnement naturel. Alors, on va voir comment. Notre méthode d'analyse de protection contre les inondations, on la décline à plusieurs échelles, hein, à l'échelle du bassin versant ou de l'ensemble du milieu marin, à l'échelle d'un système de protection donc local, un système d'endiguement composé d'ouvrages, hein, de plusieurs ouvrages, et puis ensuite à l'échelle des composants des ouvrages et des systèmes. Et à chacune de ces échelles, on conçoit différentes interactions entre les ouvrages et la nature. Alors, en termes d'hydraulique, au niveau du bassin versant, c'est le stockage temporaire de l'eau pour limiter les débits et les niveaux, comme on l'a vu dans un des schémas tout à l'heure. Alors, c'est éventuellement adapté au milieu marin si les enjeux à protéger sont éloignés du littoral. Sinon, on ne peut pas envisager de stockage parce que, évidemment, on n'arrivera pas à faire diminuer le niveau de la mer en stockant une partie des eaux de tempête dans un bassin, hein, si les enjeux sont directement en contact avec la mer. Le système de protection en endiguement, l'objectif, c'est d'empêcher l'eau d'atteindre le territoire. Et qu'est-ce qu'il y a? Et donc, les autres éléments sont définis pour réaliser cet objectif de protection du système. Donc là, on a deux niveaux d'analyse dans ce niveau système de protection éléments. Et enfin, les ouvrages sont décomposés en composants, hein, et donc ils ont des fonctions structurelles. On va voir tout à l'heure comment on les analyse et comment ça interagit avec la nature. Alors, autre élément à prendre en considération, hein, lorsqu'on veut parler de solutions fondées sur la nature, c'est que dans l'ensemble des milieux d'environnement, hein, en termes littoral, en plaine, en montagne, en moyenne montagne, haute montagne, chaque fois, c'est des aléas différents, des milieux naturels différents, des phénomènes morphodynamiques différents et des dynamiques hydrauliques aussi différentes. Donc, on va avoir à la fois des ouvrages qui vont s'adapter à ces contraintes environnementales locales, mais aussi les solutions fondées sur la nature qui seront aussi certainement différentes et adaptées. Autre chose à considérer, c'est que ces solutions fondées sur la nature, où est-ce qu'on va les appliquer? On va les appliquer sur les trois composantes de notre modèle qu'on aime bien lorsqu'on fait l'analyse des inondations, le modèle source, pathway, réceptor. Hein, donc, on va pouvoir mettre des solutions fondées sur la nature, soit du côté de l'eau, soit du côté de la zone protégée, soit sur les ouvrages de protection eux-mêmes. Et évidemment, on pourra combiner différentes parties, hein, de ce système. Mais on verra qu'on peut très bien faire un projet de protection contre les inondations en introduisant des solutions fondées sur la nature, sur tout ou partie de ce système source, pathway, réceptor. Et ensuite, eh bien, les milieux naturels, hein, par rapport à l'aspect biologique, comme d'ailleurs par rapport à l'aspect physique au sol, on va distinguer trois types de milieux naturels, des milieux purement terrestres, des milieux aquatiques et puis des zones humides qui sont plus ou moins en permanence, à la fois en eau et hors d'eau. Et donc, évidemment, en termes de biologie, on n'aura pas les mêmes organismes, hein, qui vont se développer dans ces trois types de milieux. Donc, définition de solution fondée sur la nature, pas sur analyse globale aux différentes échelles. Globale, donc aux différentes échelles, sur les fonctions et les objectifs de protection, sur les impacts sur les écosystèmes et éventuellement sur les besoins de sauvegarde ou d'enrichissement des écosystèmes. Et aux différentes échelles d'analyse, les SFN vont alors viser à définir des solutions, donc des compromis, permettant de conjuguer au mieux les deux objectifs, protection contre les inondations et objectif richesse du milieu naturel. Et donc, le message qu'on a suite à nos réflexions, on a pas mal échangé ces derniers temps avec Bruno pour conceptualiser ça, c'est qu'en fait, il va être nécessaire de se fixer ce double objectif, hein, et savoir est-ce qu'on part d'abord d'un objectif de protection et ensuite voir comment on l'atteint en étant le plus complet possible au niveau environnemental, ou alors l'inverse. Ou alors se fixer des objectifs des deux côtés et chercher le bon compromis. Mais en tous les cas, il s'agit bien de se fixer des objectifs par rapport aux deux fonctions, aux fonctions environnementales et aux fonctions protection contre les inondations. Alors on va voir, je vais peut-être passer cette diapositive, parce qu'on va voir des détails ensuite. Hein, les solutions, qu'est-ce qu'on peut envisager comme solution ? À l'échelle du bassin versant, à l'échelle globale, à l'échelle locale, pardon. Ensuite, est-ce qu'on peut concevoir des ouvrages plus naturels avec deux types, a priori, de solutions techniques, hein, puisque là, on continue à parler d'ouvrages. Donc, des ouvrages qui sont plus souples, hein, qui sont donc moins rigides que des ouvrages en béton, mais même que des ouvrages en terre, qui supportent mieux les évolutions, évolutions morphodynamiques et puis présence éventuellement de biodiversité, et des ouvrages qui peuvent supporter la présence de végétation et d'animaux. Mais du coup, tout ça va nous amener probablement à des besoins en termes de foncier beaucoup plus important, parce que il faudra que les ouvrages soient capables, malgré la présence justement de cette souplesse, hein, de cette respiration de l'ouvrage, par exemple une dune, hein, qu'on peut considérer dans certains cas comme un composant d'un système de protection, ou la présence de racines d'arbres, de terriers d'animaux, puisse quand même, en cas d'événement hydrologique, assurer une fonction de protection. Donc on a besoin d'un volume beaucoup plus important sur ces nouvelles structures que sur les ouvrages plus classiques. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une nouveauté? J'ai déjà plus ou moins abordé la question dans mes explications précédentes. Objectif SFN en tant que tel, c'est peut-être une nouveauté, parce que on entend parler, on voit tous les travaux qui se font et on essaye de suivre cette démarche. Néanmoins, c'est pas une nouveauté dans la mesure où on a quand même pris conscience de l'intégration, de l'interaction entre la nature et les ouvrages, dans un premier temps au niveau physique, même si c'est pas encore au niveau biologique. C'est quand même une tendance de fond pour avoir des ouvrages qui soient des systèmes, hein, parlons plutôt de systèmes que d'ouvrages, c'est peut-être déjà moins violent que des choses qui sont absolues. Alors, quelques exemples, hein, exemple à l'échelle du bassin versant, pour retenir l'eau en amont, pour éviter de l'envoyer en aval, on peut concevoir, et c'est un concept qui n'est pas nouveau. Il a déjà une bonne dizaine, ou même plutôt une bonne vingtaine d'années, développé par nos collègues, à l'époque c'était le CEMAGREF à Lyon, avec la participation de collègues à Aix, le ralentissement dynamique des crues, et donc avec différentes mesures, à la fois des mesures structurelles type ouvrage, mais aussi beaucoup de mesures naturelles d'aménagement du territoire pour ralentir les flux d'eau dans les parties amont du bassin versant. Alors, je vais passer sur les détails de ces mesures qui sont listées à l'écran pour gagner un peu de temps. Je pense que je suis un petit peu trop lourd. Ensuite, on peut, à une échelle plus locale, avoir également des mesures de remise en fonctionnement plus naturelle du milieu. Alors, deux exemples à l'écran. Un exemple qui est connu, enfin les deux exemples sont très connus, sont souvent cités, qui mettent en jeu des vrais ouvrages, mais également à l'échelle d'un système, quelque chose de beaucoup plus naturel. Donc à gauche, c'est le polder d'Erstein, qui est en amont de Strasbourg sur le Rhin, qui est une zone de stockage des crues, mais qui est également une zone naturelle, naturelle entre guillemets, dans la mesure où elle est artificielle, puisque ceinturée par des digues, et son alimentation est également artificielle et contrôlée, mais de manière à développer un milieu donc, naturel, au sens où on a une biodiversité, et les guillemets du naturel étant du fait que c'est entièrement géré et contrôlé. Et donc, ça permet du stockage en période de crue, mais ça permet le reste du temps d'avoir une zone biodiversité qui sert également de zone de loisirs pour de promenade. Et à droite, eh bien, en fait, c'est sur la Meuse. Pour protéger les zones en aval, on a construit cet ouvrage de type barrage, mais qui a été construit de manière à être plus respectueux par rapport à la continuité écologique dans le liminaire de la Meuse. On a également remis en service des bras secondaires de la Meuse et créé cette espèce de zone humide. Alors, à l'inverse du polder d'Erstein, cet ouvrage est plutôt du type barrage que du type digue, et donc c'est que pendant les crues qu'on va faire du stockage en amont du barrage. Mais là aussi, on va remplir deux fonctions, protection contre les inondations et biodiversité. C'est l'ouvrage de Mouzon, qui est également connu et souvent cité en exemple. Ensuite, en termes d'ouvrage et non plus en termes de gestion à l'échelle du système, eh bien, vous voyez le schéma qui est présenté en bas à gauche représente un système de protection contre les inondations, donc où on voit deux agglomérations dans une zone protégée, protégée contre un cours d'eau, protégée contre la mer, par un certain nombre d'éléments qui empêchent l'eau d'inonder cette zone. Ces éléments pourraient être des digues fluviales, des digues maritimes, mais également des éléments naturels, plus ou moins naturels, plus ou moins gérés, un promontoire rocheux, donc c'est relativement solide, et puis quelque chose qu'on voit fréquemment dans les systèmes de protection en milieu littoral, des cordons dunaires dont la présence et dont la pérennité pendant les tempêtes sont nécessaires pour assurer la protection de la zone qui est en arrière. Et donc ces éléments naturels, il faut qu'ils soient un minimum gérés pour assurer leur performance. On dit, est-ce qu'il s'agit de solutions fondées sur la nature ? Il y a beaucoup de questions qui se posent sur la manière de gérer, surveiller, entretenir ces systèmes mixtes composés de vrais ouvrages et d'éléments naturels. Et la GEMAPI aujourd'hui ne donne pas encore les éléments permettant de gérer ces cordons dunaires par le gestionnaire GEMAPI. Bon, ensuite, bien, un ouvrage classique tel que représenté à l'écran, c'est une digue de protection contre les inondations sur la Loire. Je ne vais pas rentrer dans le détail des différents composants avec les différentes fonctions géotechniques classiques, protection contre l'érosion, stabilité, drainage, étanchéité, filtration, toutes les choses qu'on considère lorsqu'on fait du génie civil. On peut quand même concevoir des ouvrages avec un minimum de fonctions naturelles, puisque c'est des ouvrages en remblai, la protection minimale qu'il peut assurer, c'est souvent protection par enherbement hein, pour éviter l'érosion externe par la pluie, le ruissellement et un certain nombre d'agressions extérieures. Et on peut très bien, déjà dans un premier temps, c'est peut-être le degré, pas le degré zéro, mais le degré R de la SFN sur les digues en remblai, c'est d'utiliser des espèces herbacées ayant une bonne valeur biologique compte tenu du milieu dans lequel on se trouve. Il y a eu certains cas, en termes de mesures compensatoires lors de création de chantiers de digues, l'utilisation, par exemple, d'espèces endémiques en voie de disparition par rapport à la protection contre l'érosion avec de l'herbe. Le génie végétal dont Freddy a parlé tout à l'heure, qui permet aussi d'utiliser des espèces pour la protection des berges. Là, encore une fois, si on a une vraie digue, il faut que ces espèces végétales soient suffisamment loin pour ne pas poser de problème de racines et d'érosion interne dans la digue. Mais une berge suffisamment éloignée de la digue, c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, c'est aussi un premier niveau de solution fondée sur la nature avec une vraie digue qui ne serait pas trop naturelle. La première chose à faire, lorsqu'on peut le faire, c'est d'éloigner la digue du cours d'eau parce qu'on y gagne à tout point de vue en recréant un espace naturel entre la digue et le cours d'eau hein, où la vie peut se redévelopper. Et puis, on y gagne aussi également en termes de fiabilité de la digue puisqu'on va diminuer les sollicitations hydrauliques sur la digue en elle-même. J'en ai déjà parlé, autre concept hein, qui est dans l'air du temps, les ouvrages multifonctionnels. Alors, ils sont pas forcément, c'est pas forcément toujours le même objectif, parce que lorsqu'on parle d'ouvrages multifonctionnels, l'objectif principal est plutôt de répondre à des contraintes foncières, hein, quand on n'a pas la place de gérer tous les usages. Et c'est souvent en zone urbaine, donc on va concevoir des ouvrages multifonctionnels. Donc un exemple à l'écran, là aussi on voit qu'on dépasse largement l'implantation d'une digue classique, mais on peut retrouver différents usages, alors des parkings souterrains, du transport, hein, de l'habitat. Et pourquoi pas intégrer des fonctions écologiques hein, pour concevoir des choses qui soient à la fois multifonctionnel, mais aussi SFN, la partie nature étant une fonction parmi toutes celles que doivent assurer cet ouvrage. Voilà un peu pour l'état des lieux. Alors, c'est fait au pas de course. Hein. On aurait pu détailler tout ce qui a été détaillé là et parler pendant une heure ou deux. C'est vraiment un balayage rapide de l'ensemble des échelles et des interactions entre ouvrages et systèmes de protection et nature. Maintenant, quelques considérations. Pourquoi est-ce qu'on a du mal aujourd'hui à faire des implémentations de vraies solutions fondées sur la nature qui répondent vraiment aux deux objectifs hein, et pas un objectif prioritaire et l'autre, un deuxième qui rejoint, on dit bah, « tiens, si on tenait compte également de la nature ou si on tenait compte également de la protection contre les inondations, c'est que lorsqu'on veut faire de la protection, classiquement, on a plus de confiance, et ça, c'est plutôt les décideurs que la population hein, dans les techniques classiques de génie civil, les décideurs avec éventuellement les bureaux d'études qui travaillent avec eux. Également, par rapport à l'aspect décideur politique, une solution fondée sur la nature va peut-être être moins visible par la population, hein, même si elle sera appréciée, parce que peut-être qu'on dira « bon, c'est peut-être bien joli, c'est intéressant, c'est la nature, mais est-ce qu'on est vraiment aussi bien protégé que par un gros mur en béton ?» C'est pas ce que je pense, c'est pas ce que je veux promouvoir, mais c'est peut-être une crainte. On a besoin de vaincre la résistance au changement de paradigme hein, de la part de ces gestionnaires et de ces décideurs politiques. On n'a pas ou peu de règles de l'art par rapport aux ouvrages ou aux systèmes qui vont intégrer ces solutions fondées sur la nature. Elles n'existent pas alors qu'on a des textes techniques nationaux et internationaux sur les ouvrages classiques barrages et digues. Et donc, comme il y a de l'ingénierie hydraulique qui va intervenir, eh bien, on va se référer à ce qu'on connaît. Donc, il y a des développements à prévoir. On a des fonctions ouvrages éventuellement incompatibles avec la nature, hein, la présence de végétation sur ou à proximité des digues, si on ne les conçoit pas suffisamment en intégration, comme je le disais tout à l'heure, peut-être en élargissant, en renforçant un certain nombre de choses, ça marchera plus ou moins bien. Et ensuite, on n'a pas de retour d'expérience, forcément, puisqu'on a peu d'exemples, sur l'évaluation et le diagnostic des SFN pour la protection contre les inondations sur le long terme. Il faut savoir une chose, c'est que les ouvrages de protection contre les inondations, les systèmes de protection contre les inondations, un élément essentiel, ce n'est pas simplement leur construction, c'est leur gestion sur le long terme. Cette gestion, ça passe par des diagnostics et des analyses de risque réguliers, pour être sûr que le jour où l'événement arrive, puisque c'est des trucs qui vont être sollicités que tous les 10, 50 ou 100 ans, que le jour où ça arrive, les ouvrages sont encore en état de résister. C'est différent d'un barrage qui stocke de l'eau en permanence, qu'on peut suivre au quotidien pour savoir s'il fonctionne bien. Et les ouvrages de protection, on a besoin impérativement de ces évaluations et de ces diagnostics réguliers. Et aujourd'hui, je ne pense pas qu'on ait les outils, pas plus que pour la conception, encore moins que pour la conception, par rapport à leur évaluation périodique. Donc, voilà quelques idées en vrac aussi. Hein, c'est ma dernière diapo, enfin, c'est notre dernière diapo. Conclusion, perspective. Donc, on est convaincu, hein, Bruno et moi, qu'on a besoin de conjuguer protection contre les inondations et SFN, à la fois d'un point de vue écologique, mais également d'un point de vue de performance de ces systèmes, puisque les ouvrages font partie d'un système beaucoup plus vaste et que la nature, que ce soit la nature biologique ou la nature morphodynamique, interagit avec les ouvrages. On a des besoins d'analyse globale à différentes échelles, à l'échelle du bassin versant, à l'échelle du territoire local et à l'échelle des ouvrages, à la fois en conception et en gestion. Donc, on a besoin de développement, de méthodes d'ingénierie, on a besoin de R&D. La GEMAPI, dont Freddy a largement parlé, propose un cadre dans lequel pourrait s'épanouir ce type de démarche globale. Mais là, par contre, on est beaucoup plus, Bruno et moi, beaucoup plus, on relativise beaucoup plus l'apport de la GEMAPI. Pourquoi ? Parce que sa mise en œuvre n'est pas encore finalisée ou stabilisée. Sa globalité est parfois remise en cause. D'une part, la globalité géographique, hein, puisque la GEMAPI est définie à l'échelle intercommunale. Le bassin versant dépasse largement cette échelle intercommunale. Les systèmes ne sont pas non plus calés aujourd'hui, même à l'échelle locale, sur les limites communales. Et ensuite, maintenant, on a permis la segmentation des différentes sous-composantes de la GEMAPI qui peuvent être attribuées à telle ou telle partie. Et ensuite, au cas par cas, ce qu'on constate, nous, hein, on n'a pas fait d'études sur la question, c'est plutôt un constat un peu ressenti, c'est que souvent, on part plutôt d'une des fonctions et on essaye de raccrocher l'autre en cours de route, que c'est d'avoir une approche globale où on ferait vraiment une SFN telle que les 7 points le présentent, où on intègre l'ensemble des contraintes du projet dès le début. Et il y a souvent un peu une récupération d'un côté ou de l'autre. J'en ai terminé avec la présentation.
Merci beaucoup Rémi pour cette présentation riche. Il y a eu quelques questions donc, pendant la présentation. Je vais commencer par celle de Cathy qui fait un peu aussi, par rapport à ton dernier point, tu parlais de différentes fonctions qu'elles peuvent répondre les ouvrages de protection, les digues. Donc, elle me posait la question de la multifonctionnalité. Et du coup, puisque tu parles à la fois de protection et de sauvegarde des écosystèmes, est-ce qu'il ne faut pas aussi intégrer dans la réflexion d'autres dimensions de la multifonctionnalité ?
Ah oui, bien sûr. Hein, je suis passé rapidement. Hein, il n'y a eu qu'une diapo là-dessus. C'était simplement pour rappeler que que les deux approches SFN et ouvrages multifonctionnels, elles ne sont pas du tout, elles ne s'excluent pas, hein, au contraire. Les ouvrages multifonctionnels, ce n'était pas l'objectif de la discussion d'aujourd'hui, Et je n'ai pas préparé de liste de toutes les fonctions qu'un ouvrage multifonctionnel peut remplir.
Non, mais c'était, oui, c'est, en fait, c'était simplement pour rappeler qu'il y avait d'autres fonctions potentielles que ces deux-là qu'on
Il y en
peut.
a plein d'autres. Et d'ailleurs, beaucoup d'ouvrages multifonctionnels, souvent réalisés en zone urbaine, l'aspect nature, il est un peu limite, quoi, hein. C'est juste pour planter quatre arbres, comme les arbres qu'on a au bord des routes. Personnellement, je trouve ça un peu limite en termes nature. Si on veut vraiment quelque chose qui est un objectif type SFN, il faut l'intégrer spécifiquement dans un ouvrage multifonctionnel, pas simplement comme un aspect un peu paysager, quoi.
Ok, merci. Une question de Mathilde qui pose la question du coût de la création de l'entretien des solutions fondées sur la nature. Est-ce qu'elles sont plus ou moins avantageuses selon votre expérience par rapport aux solutions dures, et notamment dans un cadre à long terme avec le changement climatique?
Peut-être que Bruno peut intervenir aussi dans les discussions, hein, parce que comme je l'ai dit, on a préparé ça ensemble. Moi, je dirais que je n'ai pas la réponse là aujourd'hui à cette question, parce on a peu d'exemples de vraies démarches sur lesquelles on aurait à la fois intégré les objectifs protection et les objectifs SFN, et avec du recul, pour pouvoir chiffrer ces choses-là. Maintenant, peut-être en termes d'impression, hein. Création, c'est pas forcément plus cher, à mon avis. C'est d'après quelques exemples, hein, où on a quand même pas mal d'exemples, on a réussi à éloigner les digues du limineur et à recréer un espace naturel. Et en termes de coût, c'est équivalent. Ensuite, en termes de coût d'entretien, ben, comme c'est des expériences récentes, on n'a pas suffisamment de retour d'expérience. J'ai peut-être juste une entre guillemets expérience négative. C'est le CIMADREM qui a fait un projet où justement il reculait les digues, il modifiait son système, il recréait une zone naturelle en remobilisant un bras du Rhône qui n'était plus utilisé en temps normal. Et ça en est resté, cette évaluation, au stade du projet, hein, ingénierie écologique. Et en termes d'entretien, le CIMADREM a poussé les hauts cris parce que le bureau d'études écologiques qui avait chiffré l'entretien de cette zone naturelle arrivait à 10% du budget annuel d'entretien des digues du CIMADREM. Donc, sur 220 km de digues, pour un petit bras mort de quelques kilomètres. Donc, ce n'était pas du tout à l'échelle du budget du CIMADREM. Mais bon, c'est une expérience, c'était peut-être un coup d'essai, c'était peut-être un petit peu du luxe en termes de suivi et d'entretien de cet espace naturel. Je pense qu'on n'a pas encore, on n'a pas encore les données, en tout cas pas en France, sur ces choses-là qui seraient vraiment avec une intégration des deux fonctions, hein.
Ok. Bruno, n'hésite pas à intervenir aussi, hein, bien sûr.
Oui, mais j'ai rien à compléter là. C'était très complet.
Et du coup, une question d'Emma sur, alors, c'est pareil, tu l'as un petit peu évoqué à la fin, et notamment comment s'articulent ces ouvrages de protection vis-à-vis des bassins versants et des écosystèmes aquatiques. Et est-ce qu'il y a une complémentarité sur l'évolution des occupations des sols, hein, sur les trames écologiques?
J'ai du mal à répondre à la question parce que la panoplie des ouvrages, je suis passé rapidement, mais la panoplie des ouvrages et des systèmes est relativement déjà suffisamment vaste avec les ouvrages classiques. Si en plus on veut combiner avec des approches innovantes SFN, la réponse à la question risque d'être. Il faudrait faire une étude type d'ouvrage par type d'ouvrage, type de solution par type de solution, quoi. Et
Après,
ensuite.
non, mais ça peut être une réponse de dire qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément
Non, on
les éléments pour pouvoir
n'a
répondre à cette
pas.
question, mais que voilà, ça pourrait être des choses à investiguer par contre.
Ben, parce que, bon, par exemple, l'exemple que j'ai cité tout à l'heure du ralentissement dynamique en tête de bassin versant, c'est des choses qui sont très bien intégrées aux écosystèmes, puisque ça fait partie de la démarche dès le début. Écosystème aquatique ou zone humide, hein, terrestre, aquatique. Ensuite, oui, enfin, ça sera du cas par cas, à la fois type d'ouvrage et projet par projet.
Merci, Ami. À noter que Philippe indique qu'il y aura des éléments de coût, enfin des éléments d'analyse économique qui seront proposés demain matin sur les présentations entre 10h et midi demain matin. Donc ça pourra être un bon complément à ce que, voilà, les éléments avancés ici. Et il y avait une